זה שאמר הכתוב, c'est ce que dit le pasuk, im shanoti berak harbi ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמסני אשלם. תנו אזכיר חיצי מדם, וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושביה, מראש פרעות אויב. סיין פסוק, וסבל traduction. Si c'est la paracha de Zinou. On lira donc après Kippour. Après Rosh Hashanah, pardon. C'est Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est Parshat Hazinu. Ici, ils traduisent quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, quand ma main s'armera du châtiment, je prendrai ma revanche ou ma vengeance sur mes adversaires, je paierai de retour mes ennemis. J'enivrerai de sang mes flèches et mon glaive se repaîtra de chair, du sang des mourants et des captifs, du crâne des capitaines ennemis. Bon, c'est une traduction assez approximative. En tout cas, Ashiv Nakam, Nekama, c'est la vengeance. Et effectivement, je vais enivrer, c'est la Shon Shikur, mes flèches de sang et mon glaive mangera littéralement la chair. Les dames halal du sang de ceux qui sont tombés, ceux qui sont des mourants, quoi, et des prisonniers. Roche par haute, c'est littéralement, ça veut dire des têtes. Par haute, c'est le même lachon que paro, perechaim, pera. Et paro, en fait, ça veut dire échevelé. Gens qui sont complètement échevelés, des têtes échevelées de l'ennemi. Échevelé, c'est, donc pour dire paro, c'est justement que la chevelure, elle a, ça reflète le refus de la discipline, ça veut dire ça part dans tous les sens. On refuse de se plier à quoi que ce soit, ça explose dans toutes les directions. Ici, ils ont traduit par les longs cheveux. Mais c'est pas qu'ils sont longs seulement, c'est échevelé, vraiment. Ouais, des fois ça veut seulement dire effectivement, quand on dit Gadel Pera, pour le nazir ou des choses comme ça, ça veut seulement dire laisser pousser en fait, mais c'est en général la connotation négative, oui. C'est marqué dans Maseret Sota, dans les psukim de Sota, déjà, ou para Rosh Haïcha. Là-bas, ça veut dire que découvrir, on traduit par découvrir la tête de la femme. Et ça veut aussi dire que si la femme avait des cheveux tressés, etc., on allait tout défaire. Alors le Midrash demande Maya Mikra Azé. Les psukim dans Azilu sont toujours un peu difficiles, c'est de la poésie, c'est une shira. Donc comme toujours dans la poésie, même en français, on n'y comprend pas grand-chose, alors vous imaginez en Lashon HaKodesh. Mais le Midrash demande qu'est-ce que c'est. Alors il va y avoir plusieurs explications de ce... Rav Yehuda et Rav Nachman. Alors là, c'est conforme à la remarque que Herschel avait faite dans le shiur précédent. Ici, on ne dit pas qu'ils sont en opposition. On donne l'explication de Rav Yehuda et celle de Rav Nachman. Et j'ai pris l'habitude d'expliquer que si on donne deux, sans dire qu'ils sont en marloquette, ça veut dire qu'en fait, ils viennent se compléter. C'est-à-dire que pour comprendre, tu es obligé de prendre... C'est comme si on disait, on ne peut pas rendre compte de ça si on ne prend pas deux points de vue. Il faut deux points de vue. Il faut le voir de ce côté-là et aussi le voir de l'autre côté. C'est pas possible d'avoir une explication seule. Rav Yehuda Omer, Amar HaKadosh Baruch Hu, Im Shonen Ani Et Charbi Kabarak, Ani Machriv Et Olami. Si j'aiguise mon glaive comme l'éclair, donc si en fait, alors je vais détruire mon monde. Ma essai, qu'est-ce que je peux faire? V'tochez b'mishpat yadi. Ma main, littéralement, elle va se saisir du mishpat, de la justice. Ça c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Amar Rav Nachman dit, Amar Kadosh Baruch Hu im meshane ani et midat adin. Rav Nachman dit, il fait parler toujours à Kadosh Baruch Hu, qui dit, si j'aiguise la Midat Adin, même Barak Echad Animotsi, et que cette Midat, elle émet ne serait-ce qu'un seul éclair, ou Machriv Et Olami, et que ça détruise mon monde, Maese, qu'est-ce que je ferai? Betochez ba mishpat yadi. Alors il faudra que ma main tienne le mishpat. Ça a l'air très proche, les deux lectures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est cette différence ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Enfin d'abord, si, effectivement, si je laisse libre cours, dit Hachem en fait... Si j'aiguise mon glaive, et Rav Nachman, lui, il dit, si j'aiguise la Midat Adin, mais tous les deux disent la même chose, quoi qu'il en soit, ça va détruire le monde. Et pour ne pas détruire le monde, il faut que ma main tienne, saisisse le Mishpat. Ma main saisisse le jugement, en fait, la justice. On a l'impression ici que saisir le mishpat, que la main saisit le mishpat ici, ça a l'air de d'empêcher la midatadine, d'empêcher le glaive de faire des dégâts. C'est quoi le mishpat? Ce serait la canalisation de l'effet du glaive ou de la midatadine. Une canalisation une atténuation de la midatadine. Regardons. Le Etz Yosef, il dit si je sors le décret de façon très pointue, Azai Batel Kola Metsiut, donc tout l'existant va être détruit. Et c'est pour ça, Rak Shani Ochez Yadi Bamishpat. Alors, pour ça n'arrive pas, je tiens le Mishpat, en fait. Et Rav Nachman dit, si au contraire j'aiguisais la Midatadine, c'est-à-dire, si je laissais la Midatadine, comme il dit, Gamour, Belo Shituf Midata Rachamim, sans lui associer la Midata Rachamim, d'autres disent que méchané, ça ne veut pas dire ici aiguisé, mais ça veut dire changer, modifier. C'est-à-dire, si je modifie de ma midatadine, c'est-à-dire qu'en fait, si je fonctionne avec la midatahamim, avec la mesure de tendresse, alors, en fait, le contraire, pardon. Il dit, si je change le fait que jusqu'à présent je... Non, lui il dit comme ça. Le fait que jusqu'à présent je fonctionne avec la Midat HaRachamim aussi, et si je me laissais aller à ne plus utiliser la Midat HaRachamim, mais laisser la Midat HaDin seule, effectivement je détruirais le monde. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'ils mettent chacun en avant? Lundi, si j'aiguisais mon glaive, et disons, le Etz Yosef, il a traduit, il a interprété, si vous préférez, en disant qu'il s'agit, si je donnais des décrets aussi tranchés, aussi enfin, totalement tranchés, ça détruirait le monde. Mais le Mishpat, donc, ce qu'on entend ici, c'est que le Mishpat, c'est une façon de ne pas, dire le din, dire la loi vraiment avec toute sa rigueur. Et c'est Hachem qui dit. Ici, il s'agit de, parce que, c'est comme, pour l'instant, c'est Hachem qui parle. On a ce verset qui dit « Shoftim, Shotrim, Titen Lecha » mais toi, tu dois te les donner. Et puis, le Midrash, lui, part sur ce qu'Hachem dirait. Alors, regardons ce que... On va terminer le texte là, là-dessus. « Amar Abitzrak, Shnei Dvarim, Bimino Shel HaKadosh Baruch Hu » Il y a deux choses qui sont dans la droite, dans la main droite d'Hachem. Tzedaka et Torah. La tzedaka, sur laquelle il est dit dans Tehilim, tzedek mala yeminecha. La tzedaka, le tzedek, remplit ta droite. Et Torah, au sujet de laquelle on dit Mimino Eshdat Lamo. De sa droite, Eshdat, c'est la Torah, pour eux, pour les Bnei Israël. Shnedvarim biyado, ve'eluhen, a nefesh ve'adin. Il y a deux choses dans la main, et c'est le nefesh, c'est l'âme de l'homme et le din. Le nefesh, parce que c'est marqué Asher biyado nefesh kol chai. Dans la main d'Hachem, il y a l'âme de chaque vivant. Ve'adin, c'est marqué justement dans notre pasuk. Ve'tochez b'mishpat yadi. Amar kadosh baruch hu, ha'nefesh ve'adin netunim biyadi. Les deux choses sont dans ma main. Shimru et adin v'ani yeshmor nafshotechem. Et c'est ça, shoftim v'shotrim. Qu'est-ce que c'est ici, shoftim v'shotrim? C'est shimru mishpat. Shimru et adin, pardon. On va commencer par la fin ici. Ce qu'Hachem dit aux bnei, enfin, il dit aux hommes, bnei Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui rapporte ça dans la Shira. Il leur dit, ben finalement, les deux choses sont dans ma main. Votre âme, donc votre vie, et le din. Et qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit, si vous gardez le din, alors moi je garderai vos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'impression ici que ce qu'Hachem dit ici, puisqu'on dit Eve Shoftim et Shotrim Titen Lecha, ça veut dire donnez-vous des juges, et ainsi c'est vous qui vous occuperez du din. Et si vous vous occupez du din, alors moi je m'occuperai de vos nefashot. Par contre, si vous ne vous occupez pas du din, je ne m'occuperai pas du nefesh. Les deux sont dans ma main, semble-t-il, et je ne ferai qu'une seule chose. Et je ferai le din s'il y a une seule chose qu'il faut faire, eh bien, ça va vous détruire. Le din va détruire le nefesh. Je ne m'en occuperai pas du nefesh. Je ne sauverai pas. Le moyen que vous avez de sauver vos âmes, c'est de vous occuper, de vous donner des juges qui me déchargent, d'une certaine façon, du din. Si vous me déchargez du din, je m'occuperai de votre bien-être, en quelque sorte. Je m'occuperai de vos âmes, je m'occuperai de vous faire vivre. Et sinon, je me suis occupé au din.
C'est dans la main des juges.
C'est dans la main
de.
Mais non, on veut dire comme ça. Si les juifs veillent. Shoftim veshotrim titen lecha, c'est dit au clan d'Israël. C'est pas dans la main des juges. C'est le problème ici, c'est de nommer des juges et de veiller à ce qu'ils jugent. Ça incombe à la totalité du clan d'Israël. C'est pas que ça incombe aux juges. Le clan d'Israël doit se donner des juges qui jugent convenablement. S'ils jugent pas convenablement, il faut les remplacer. Mais la responsabilité de faire la justice, elle incombe au clan d'Israël en tant que tel.
Elle incombe aussi aux autres peuples, je crois, puisque...
Eux aussi doivent se donner des dinim, mais seulement nous, on doit se donner des juges qui jugent d'après la Torah. Eux, ils doivent se donner des juges qui peuvent juger comme ils veulent, pour autant qu'ils respectent les Sheva Mitzvot des Bnei Noach.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau du mot, enfin, de la discussion entre Rabbi Nachman et
Yehuda?
Oui, autour du mot aiguisé, c'est-à-dire aiguiser le glaive ou aiguiser la pensée, aiguiser le... entre la force et l'esprit, et là intervient le... Est-ce que c'est pas là que se situe peut-être, je sais pas, mais la différence de point de vue.
Le fait est que dans Rav Nachman, on a une discussion pour savoir comment il faut lire Meshané. Est-ce que Meshané, ça peut vous dire changer?
Oui, c'est ça.
Et Meshané, c'est aussi le. Ça peut vouloir dire aussi Shonen, c'est-à-dire aiguisé.
Oui. Justement, est-ce que ce double sens. C'est...
Mais ça ils le lisent comme un double sens dans Rav Nachman lui-même. Ça détruirait le monde. C'est la fin. La fin dit je m'occuperai pas de vos âmes. Lui, il parle pas du monde, le Rabbi Tzrak. Les deux premiers, ils parlent du monde, la destruction du monde. Et là, on parle de c'est dit en termes de nefesh, en termes des âmes des hommes. Ça revient peut-être au même, si on considère que. Je vous détruirai si vous ne vous occupez pas vous de faire la justice, je vous détruirai. Parce que le verset qu'on a ramené ici, c'est un verset un peu compliqué, un peu qui parlait, je vous disais, c'est qui parle de la vengeance, c'est-à-dire. En fait, ce qui est décrit ici, c'est que quelque part, dans le pasouk, il a l'air de dire assez clairement, je vais prendre ma vengeance de mes ennemis. Et ceux qui me haïssent, je vais leur faire payer. Comment? Je vais, comme il a dit, enivrer mes flèches du sang. C'est-à-dire, quelque part, comme s'il y avait une joie, ils vont être. Les flèches vont. Et le glaive va prendre. Il y a un plaisir, une jouissance. De faire ce travail de la flèche qui pénètre, qui tue, et le glaive aussi dans la chair, etc. Ça, Hachem dit, il y a un problème, c'est le problème de mes ennemis. C'est mes ennemis. Et donc, il faut que Hachem lui-même dit, je suis obligé d'en passer par le Mishpat. Quelque part, la Milat Adin, qui n'est pas le Mishpat, qui n'est pas le jugement lui-même, la Milat Adin, elle ne supporte pas. Mes ennemis doivent être complètement détruits. C'est-à-dire que la vengeance, ici, elle est vue comme quelque chose de positif pour Hachem. Pour Hachem est un dieu de vengeance. C'est marqué Kel Nekamot Hachem. Hachem est un dieu de Nekamot. Nekama, c'est la vengeance. Nous, on n'a pas le droit de se venger. Mais Hachem est un dieu de vengeance, c'est-à-dire que on ne peut pas tolérer, on ne peut pas tolérer du tout quoi que ce soit contre Hachem. Et donc, en fait, s'il n'y avait pas la. Si lui-même, il dit, si moi je ne saisissais pas le Mishpat, ça détruirait complètement le monde. Parce que les gens, mes ennemis en quelque sorte, c'est. Quasiment le monde entier, et donc, il y a tellement, puisque tous les gens qui ne font pas ce qu'a la volonté d'Hachem deviennent, d'une certaine manière, c'est les ennemis d'Hachem. Et donc, devenant les ennemis d'Hachem, tombent sous le coup de la vengeance divine, et donc ils vont être détruits complètement. Et ça détruirait, comme il dit, je détruirais mon monde.
Mais c'est quoi le Mishpat ici?
Alors, le Mishpat, c'est justement, c'est présenté ici comme le moyen de vivre après la transgression, quelque part. C'est ce qu'Hachem nous a donné comme moyen de ne pas être exposé à la vengeance divine, en quelque sorte. Pour ne pas être exposé à la Midat Hadin, il y a le Mishpat. Hachem a décidé que si on faisait ces choses de telle ou telle manière, alors c'était bien. Il a le Mishpat, et Hachem lui-même dit, ok, je tiens le Mishpat. C'est-à-dire, je me tiens au Mishpat, je me limite avec ça. Et je vous le confie, en fait. Et le, c'est ça. Dans le Mishpat, il y a parce qu'il faut dire presque un affaiblissement du din. C'est-à-dire que, parce qu'il faut l'entendre. Je vais donner un exemple peut-être. Il y a une halakha qui dit que un ben noach qui transgresse les lois, donc un non-juif qui transgresse la loi des ben noachs, il est toujours passible de mort. Toutes les fautes sont sanctionnées par la mort. Tu fais pas, en d'autres termes, je t'ai donné un ensemble de règles que tu dois satisfaire pour avoir le droit de vivre dans mon monde, dit Hachem. Tu ne satisfais pas, tu meurs. Et il y a... Alors, en fait, ça devrait être la même chose pour les Bnei Israël. Et nous, on a une règle qui dit que chaque fois qu'on transgresse, disons, il y a toujours un peu des exceptions, des trucs comme... Mais en gros, chez les Bnei Noirs aussi, d'ailleurs, quand on transgresse, quelque chose qui est dans la Torah est présenté comme un lota assez, tu ne feras pas. Qu'est-ce qu'on encourt? Makot, des coups. Et ceux qui ont étudié Sanhedrin se rappellent peut-être que la Gemara l'explique là-bas, c'est Rava qui parle, me semble-t-il, qui dit qu'en réalité, les makot, c'est une forme de mort. C'est-à-dire que Hachem il a changé, il a accepté, enfin c'est lui qui l'a décidé donc, il a décidé de remplacer pour les Bnei Israël la peine de mort qui devrait sanctionner la transgression des mitzvot, de faire la transgression des interdits, par quelque chose qui est une peine de coup, où justement se marque le fait que ces coups ne doivent pas donner la mort. Parce que la Torah, elle dit, la peine de coup, c'est 39 coups. Mais, avant de lui donner la peine des 39 coups, on prend un médecin, et le médecin doit évaluer combien de coups il peut supporter. Et il ne reçoit que ces coups-là. Et si on évalue qu'il ne peut pas les supporter, ben il reçoit rien. Donc, et en plus, il y a une halakha que le bourreau qui donnerait un coup supplémentaire à la quantité de coups qui est prescrite, il est passible de mort. Il est considéré comme un assassin. Ah, il agit sur l'ordre du Beddin, mais le Beddin t'a dit de donner 21 coups, tu en as donné 22, tu es mort. Enfin, tu es passible de mort. Donc on voit qu'il a changé, mais ça se traite halakhiquement par rapport à d'autres peines, par rapport à comme les draminées, par rapport aux peines d'argent qui viendraient en même temps, ça se traite comme une peine de mort. Donc c'est le Mishpat, en quelque sorte, qui a, comment est-ce qu'il faut dire ça, il a aménagé la peine de mort, pas partout, il reste quand même des situations où on a laissé la peine de mort, Mais dans la plupart des situations, des transgressions, on a aménagé la peine de mort en une peine de coups qui ne doivent pas être mortels, justement. Donc, c'est le din. C'est le mishpat, pardon. C'est pas la midat hadin. La midat hadin, c'est... Si je te l'ai... La midat hadin, elle le tue, quoi. Tu mérites la mort, c'est tout. La midat hadin, elle tue, comme on avait dit, sans laisser le temps de faire tshuva, quoi que ce soit. Tu transgresses, tu es mort. Et là, justement, il y a eu un aménagement. Dans le cadre du mishpat, il y a un aménagement de la peine de mort. Donc il y a un aménagement de la midat hadin. On a, j'ai dit précédemment, canalisé, on a affaibli, mais le chidouche, c'est qu'Hachem accepte cela. Hachem accepte le mishpat. Si Hachem a dit, bon, le mishpat, c'est, on applique le din, mais pas la midat hadin dans sa rigueur, si vous voulez. C'est la façon d'appliquer le din, en tenant compte de peut-être des faiblesses humaines, etc., du progrès divin, etc. Voilà, on applique le din. Et le din est appliqué de cette manière-là, sous la forme mishpat. Parce que, et Hachem juge, il explique pourquoi, n'est-ce pas? Les deux là, les deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Nachman, expliquent tous les deux pourquoi. Il dit parce que si je laissais le din comme tel, je détruirais le monde. Je laisserais la midat hadin. Comme tel, je détruirai le monde.
Pourquoi parler de midat hadin ?
Parce que la midat hadin, elle existe. Elle
existe pas.
C'est elle qui... Pardon, elle existe, mais Hachem ne l'applique pas. Elle existe à un autre niveau, peut-être. Parce qu'il existe des gens, comme les Avot, des gens qui ont voulu vivre au niveau de la midat hadin, en fait. Eux, ils ne voulaient pas que... Ils auraient voulu vivre sans qu'Hachem ajoute la rachamim, quoi. Ils voulaient... Puisque, si vous voulez, le fait qu'Hachem ait voulu, si on peut parler comme ça, créer le monde selon le din. Et ensuite, on dit, il a vu que le monde n'aurait pas de durée. Donc, il a ajouté la midat harachamim. C'est pas qu'Hachem a changé d'avis. C'est une façon de nous dire que de façon idéale, en tout cas, on devrait vivre au niveau du din. Et qu'Hachem a donné du temps pour se rattraper parce qu'on est des hommes, parce qu'on n'est pas capable. Mais parce que le commun des mortels, en tout cas la totalité, la quasi-totalité des hommes ne peuvent pas. Mais si on peut, ce serait idéal de vivre à ce niveau-là.
Et la midat
harachamim, c'est une mida qui vient donner du temps. La midat harachamim, elle n'enlève pas le din. La midat harachamim, elle dit seulement, je vous ai expliqué déjà, que la midat hadin, elle dit en quelque sorte, la midat harachamim, pardon, elle dit, je vais te laisser un certain temps pour faire tshuva. Si tu fais tshuva, alors tu deviens un autre, alors tu ne seras pas puni. Mais si tu ne fais pas tshuva, tu seras puni. Donc si on prend Rabbi Nachman et Rabbi Yehuda, encore une fois, Rabbi Yehuda qui lui dit « Im shonen ani et harbi » Le problème c'est, qu'est-ce que c'est que ce harbi, mon épée? Pourquoi il aiguiserait son épée? Pourquoi? Il dit « Im shonen ani » Tandis que Rav Nachman, il dit, il me chané ani et midat hadin. Alors, là aussi, ou bien je dis, lui aussi, il dit que si j'aiguise la midat hadin, ou alors je lis plutôt, il me chané ani et midat hadin. C'est-à-dire, si je change la midat hadin que j'avais jusqu'alors, la midat hadin que j'avais jusqu'alors, elle a été tempérée de Rachamim. Si maintenant je change et je la laisse telle qu'elle, alors ça détruira le monde. Avec un seul de ces éclairs, elle détruirait le monde. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a toujours les deux disent que quand Hachem dit qu'est-ce que je ferai, voilà, qu'est-ce que je ferai, Tochez ba mishpat yadi. Ma main va saisir, elle va se tenir au mishpat. Donc le mishpat est vu ici comme un succès d'année en fait, une atténuation de la midat hadin. On donne sa part à la midat hadin, c'est pas du chesed, on n'est pas en train de donner. On juge. Mais Hachem a décidé qu'il y avait des façons, on pourrait presque dire comme si dans le mishpat on avait donné des équivalents non destructeurs de la midat hadin.
J'arrive pas à traduire l'expression de la midat hadin.
C'est la mesure de rigueur, littéralement. Mida, c'est une mesure. Et la midat hadin, c'est la rigueur. Par opposition au chesed, qui est le don.
Est-ce que le mishpat ne serait pas le résultat de la promotion de l'équilibre entre midat hadin et midat harachamim?
Non, justement, on veut justement dire que la harachamim, elle n'a pas à sa place. Quand on parle de din, on veut parler du din lui-même. C'est que dans le din lui-même, il y a une procédure de limitation de la... Alors maintenant, même ça, on a aussi besoin de rachamim, parce que même si le mishpat, si on applique le mishpat systématiquement, bon, eh bien tout de suite, la personne elle est morte, quoi.
En fait, c'est parce qu'il n'y a pas deux justices, Mishpat et Midat Hadin. C'est vraiment Mishpat.
Le Mishpat, c'est le din, dans la forme atténuée, dans la forme qui laisse le monde vivre, qui serait non destructrice par le monde. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dit sur le Hachamim, comme vous disiez. En fait, c'est pas exactement la même chose, ça ne se dit pas de la même manière. Au fond, c'est la même fonction que le Rachamim qu'Hachem a ajouté au Din.
Est-ce que le Mishpat, ce n'est pas une forme humaine de Din?
Non, mais là. Non, la forme humaine, c'est les Shoftim qui vont appliquer notre Mishpat à nous. Mais Hachem, il dit, moi j'applique le Mishpat. Je m'en tiendrai au Mishpat. Ça a l'air d'être un Mishpat divin. Oui.
Ce serait la forme du din.
Oui, nos mishpatim à nous, c'est la forme humaine, bien sûr. C'est juste. Donc finalement, ça veut dire que la vie dépend du Mishpat. Quoi. La vie des Bnei Israël, la survie du clan Israël dépend du Mishpat. Si les Bnei Israël ne se mobilisent pas pour faire le Mishpat, ben ils sont morts. Donc s'il n'y a pas de justice, ben on ne peut pas vivre. Quoi.
C'est une manière... C'est une forme de
personne qui a pu me faire du mal, quoi. Donc, quelque part, c'est pas si absent que ça, quoi.
Pardon, parce que, si.
Quelque part, la vengeance n'est pas si absente que ça de notre de pouvoir, quoi.
Et d'après toi, donc, quelle serait la différence entre le mishpat et la vengeance ?
Le mishpat, ça serait la vengeance autorisée, quoi. C'est-à-dire, c'est réglementé, c'est vrai. Enfin, c'est une manière de se venger, quoi. On se venge pas.
Qu'est-ce que vous pensez ?
Je crois pas à la justice.
Je crois pas à la justice.
C'est absolument pas ça. Parce que la justice, c'est quoi ? C'est genre un sujet de vengeance codifié. La justice, ça se doit de ne pas être une vengeance.
Mais il pose une bonne question. Quelle est la différence ? Mais pourquoi le émet nécessite-t-il qu'on juge ?
Parce que
on sait ce qui est vrai, non ?
Et justement, pourquoi on juge ? Pour voir clair, entre ce que certains considèrent comme vrai et d'autres pas.
Oui.
Et dans la vengeance, on a vu clair aussi, non ? Moi, je me fais, oui, un avocat, oui. Pourquoi pas ? La vengeance, ça peut être le émet aussi. En quel cas, si la vengeance, supposons qu'on parle ici d'une vengeance justifiée. Oui. Quelqu'un m'a fait du mal, maintenant je vais lui rendre ce mal. Je vais me venger. La Torah a dit qu'on n'a pas le droit, mais qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire le émet aussi, non ? Non, mais là, je pourrais définir la règle, c'est que tu as le droit de te venger si tu es vraiment. Tu peux demander est-ce que vraiment ce qu'il m'a fait, c'est une chose. C'est répréhensible. On pourrait demander simplement est-ce que j'ai le droit de me venger ?
Est-ce que la vengeance résout quelque chose ?
Est-ce qu'il n'y a pas ici une question de réparation ?
Mais est-ce que la vengeance ne répare pas la situation ?
On sait que la vengeance ne répare pas.
Mais on sait. On sait. Je sais pas. J'essaie de te défendre. on sait. Qui sait ? Prouvez-le. Pourquoi la vengeance ne répare-t-elle pas ?
D'abord, peut-être la vengeance, il faut regarder que c'est la. Si la Torah nous dit « ne te venge pas », je pense que c'est pas quelque chose de technique. C'est quelque chose qui est au niveau de ce qu'elle veut. C'est le sentiment.
Deux.
C'est le sentiment de vengeance. Mais par contre, la réparation et la recherche de la vérité, ça oui. Mais pas le sentiment. Le sentiment de vengeance serait à éradiquer.
Peut-être que la vengeance et que le sentiment de vengeance, c'est lié à la colère, c'est-à-dire à la non-réflexion. Et que le jugement amène à la discussion, à regarder tous les éléments qui se décomposent, donc qui composent originellement les choses, si je veux dire, et à partir de là,
on peut... Nous, on a toujours l'impression que la vengeance, c'est chaud.
Ouais.
Mais c'est peut-être pas vrai. La vendetta, c'est pas obligatoirement chaud. Hein.
Ah ben, ça se mange pas d'expression, peut-être.
Justement, oui. Ouais. Donc on a très bien pu bien réfléchir avant.
C'est vrai, sous cet angle-là.
Il y a quelque chose de l'ordre de la vengeance,
Probablement. Ce n'est pas parce qu'on traduit vengeur du sang, mais Goël, c'est un libérateur. Ça, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'Hachem dit ici à la fin, là. Si vous vous occupez de Mishpat, alors je m'occupe de vous, quoi. Mais bon, je crois qu'on n'a pas vraiment encore bien dit la différence entre la... Alors, qu'est-ce qu'il fallait dire à la suite à la remarque de David, qu'en fait, c'est une forme de vengeance, il a aménagé, quoi. Ah non ?
La motivation de la personne qui va en justice, c'est pas de la vengeance, mais le fait qu'il y ait un juge, ça permet de prendre une distance avec sa motivation. C'est plus une affaire personnelle. Si on remet ça à un juge, et d'ailleurs qui n'a pas d'avocat, il n'y a pas un système de défense. C'est un juge qui est extérieur et qui.
Donc là, tu dis que la différence entre la justice, entre le Mishpat et la vengeance, c'est que la justice, elle est confiée à un tiers.
Un tiers, et qu'elle est libérée d'une motivation personnelle.
Alors pourquoi tu...
C'est un éclairage extérieur.
Alors pourquoi la porter à un juge ?
Pour ça, justement, tu n'es pas là d'être personnel.
Si tu ne la prends pas à un juge, tu n'en prends pas part.
Comme ça a l'air impossible.
Mais dans quel but j'aménage ?
Dans quel but ? Dans quel but j'aménage ? C'est ça que...
Pour savoir si t'as raison ou pas, si t'es fondé ou pas.
Oui,
c'est bien toujours dans la même logique.
Oui, mais
pour savoir ce qui est vrai.
Quand la personne a des juges, il y a probablement une dimension personnelle dans son action. Il y a une motivation qui n'est pas forcément 100% pure pour dire... Je veux amener ce cas en justice pour que mettre en évidence que c'est la loi de la Torah qui est la liste par tout
le
monde.
Le juge en tant que tiers est en même temps quelqu'un de neutre par rapport à ça, ça veut dire. Par réglé directement, mais.
Moi, ce qui m'avait étonné, un passage dans le genre qui m'avait étonné, c'est au moment où ils vont, les deux frères là, vont détruire la ville, c'est quel décision ?
Oui. Shimon et Lévi, hein.
Shimon et Lévi, qui vont détruire
Shrem.
Et on cherche à dire, mais déjà, qu'est-ce qui, pourquoi ils l'ont fait en dehors de leur sœur, ils n'avaient pas le motif suffisant apparemment, et j'ai entendu que c'est parce qu'ils n'avaient pas de Bedvin. Ils n'avaient pas de Mishpat. Et d'autre côté, on leur dit, mais vous avez ce juge. Le jugement, mais tout seul, alors, parce que quelque part, ils font ce qu'ils reprochent, quoi. Et apparemment, ils auraient une autorité suffisante à cette époque pour. C'est le 1, est-ce que je suis assez autonome, indépendant pour pouvoir être lucide et
pas. Oui, parce qu'il y a un petit problème, c'est que il y a une discussion, peu importe comment on la tranche, mais est-ce que Adam osé din l'atzmo ? Est-ce que je peux faire moi-même mon din ? Je connais la halakha, je sais qu'il me doit... Est-ce que je peux aller saisir ses biens ? Si je sais très bien ce qui va se passer. Si je vais au tribunal, le tribunal, il va aller saisir ses biens, et ses biens, il va me dédommager, disons. Est-ce que je peux y aller directement? Alors, le fait, je ne veux pas maintenant savoir si on le peut ou pas, mais le fait qu'on envisage que quelqu'un puisse faire din l'atzmo, du coup, il n'est plus du tout, il n'y a plus de tiers, il n'y a plus, etc. Donc, et malgré tout, ça s'appellerait faire le din, c'est-à-dire le din au sens de mishpat, quoi. Bon, alors on pourrait dire que c'est un cas exceptionnel, il faut être sûr de son cas, de son fait, c'est-à-dire je suis sûr que le tribunal, il trancherait comme ça, etc. Bon, alors maintenant, je pense qu'il y a certainement quelque chose de très juste dans ce que dit Franck ici, qu'effectivement, si tu mets un tiers, et que ça enlève, à la limite, une fois que le type il a été condamné par le tribunal, celui qui l'a amené là-bas, il peut très bien prendre un plaisir fou au fait que l'autre a été condamné. Il peut considérer qu'il a eu sa vengeance, quoi. J'ai eu ma vengeance de cette manière-là. Donc ça veut dire que si... c'est pas interdit. C'est pas des super bonnes midotes, éventuellement, mais il peut... Il y a sûrement une satisfaction, que quand j'ai gagné, je suis satisfait. J'ai gagné. Oui, parce qu'on considère que l'autre m'a fait une injustice, quelque part. Mais là, du coup, on pourrait se demander, bon, mais pourquoi je ne pourrais pas me venger de cette injustice? Il a commis à mon égard une injustice, c'est pas conforme au Emet, je vais rétablir le Emet. Alors, est-ce que ça s'appelle aussi de la vengeance?
Vengeance peut-être pas, mais vous dites à juste titre, il me semble qu'il peut tirer un plaisir de ça.
Bah, a priori, quand quelqu'un gagne au tribunal, il va en être content.
Oui, exactement. Vengeance,
mais c'est peut-être une vengeance. Il peut. Qu'est-ce que c'est la vengeance, en fait?
C'est obtenir justice. Oui, c'est obtenir justice, mais
non. Non. C'est justice,
ça, c'est une question.
Disons que on t'a fait du mal, tu veux en faire autant. Là, c'est ça.
C'est pas la justice.
Non, c'est pas la justice. Effectivement.
T'as un problème égo personnel.
Comme Pinchas a.
C'est Kina, là-bas, ça s'appelle. Oui.
Comme Pinchas a.
A tué Zimri. La kina. Kina, là. Ouais, c'est pas vraiment vengeance. Il a pris à son compte la jalousie, en fait. Kina, normalement, c'est la jalousie. C'est-à-dire que. On utilise ce mot de kina par rapport à l'idolâtrie ou des choses comme ça. Okay. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que Kano et Kinati, on pourrait dire il a vengé ma vengeance, si on voulait traduire par kina, mais d'ordinaire, le terme de kina, il se traduit pas par vengeance. Je veux dire, c'est pas la notion de nekama. On le dit dans l'autre sens, on demande à Hachem, nekom nikmat avadecha, venge la vengeance de ton serviteur, etc. Ça veut dire que ceux qui nous ont tués, etc. On demande à Hachem de les tuer, c'est-à-dire de prendre à son compte la vengeance qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait pouvoir faire. Dans une situation où je ne peux pas le faire, dans lequel Malé Rachamim qu'on fait quand pour les gens qui ont été massacrés, des choses comme ça, on demande à Hachem. C'est ça que le Midrash dit, en fait, c'est que le Mishpat, justement, c'est ce qui va mettre de la mesure. C'est que le Din, en fait, par définition, c'est sans mesure. La Midat HaDin, elle est sans mesure. C'est la toute-puissance. Pas de mesure. Maintenant, quand tu veux... Dès que tu mets de la mesure, qu'est-ce qui met la mesure? Mais c'est le Mishpat. Le Mishpat, c'est mettre dans un cadre. c'est fabriquer un cadre. Alors peut-être qu'effectivement la vengeance, elle est aussi de l'ordre du sans-cadre.
La vengeance, moi je me demande si c'est pas j'ai eu mal, je veux qu'il ait aussi mal que moi.
Oui, mais ça c'est déjà.
Mais oui, mais est-ce qu'il y a. Je crois qu'il y a ça dans la vengeance, non ? Je sais pas. Parce que la mesure, c'est la justice. Avoir l'équivalent, avoir. Enfin, là aussi, il y a des émotions là, mais il n'y a pas de notion de mal. Faire mal. J'ai eu mal, je veux qu'il ait mal.
L'orgueil.
Oui, je pense qu'il y a l'orgueil dans la vengeance. De l'utilité de la vengeance, c'est encore autre chose. Bien sûr.
Oui, l'avantage du Mishpat ou du Din, c'est qu'a priori, il est fait pour rétablir la situation dans la société, quoi, dans sa totalité. Condition que les gens acceptent le Mishpat. Je voudrais dire ça, ce qui me dérange un petit peu, c'est que finalement la Torah, même quand c'est un knas, c'est-à-dire même quand c'est une amende, on le donne aux lésés. C'est-à-dire que si on a volé et qu'on a attrapé le voleur, comme vous savez, en fait il doit payer le double de la valeur de ce qu'il a volé. Un qui est le dédommagement de ce qu'il a volé, il a volé quelque chose qui valait 100, il faut qu'il paye 100. Mais si on l'a attrapé, c'est-à-dire qu'en fait, s'il ne s'est pas dénoncé tout seul, il doit payer 200. Où va le deuxième billet de 100 qu'il reçoit? Ça n'est pas une compensation pour le dommage causé à la personne volée. C'est ce qu'on appelle un knas, c'est-à-dire une amende. Alors, on se serait attendu à ce que cette amende, elle aille dans la caisse de la communauté ou dans... Bref, mais les amendes, elles vont aux lésés. C'est-à-dire que quelque part, lui-même, il va bénéficier. Donc, c'est pas simplement qu'on remet les choses... Il y a eu une erreur il y a eu une faute et il faut compenser. Parce qu'il y a une notion d'amende et cette amende-là, la personne lésée va en bénéficier. Donc c'est un petit peu difficile de dire comme tu voulais dire, bien que dans l'idée, on pourrait très bien entendre ça. Peut-être que c'est comme ça et qu'il faudrait interpréter autrement le fait que l'amende va chez la personne lésée, enfin, au profit de la personne lésée. Vous vous souvenez, c'était une possibilité de... On avait envisagé de... Si vous voulez, on veut aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, mais qui a besoin d'être aidé. Alors on avait dit, on va lui voler son agneau, et puis on va le manger. Et si on vole et qu'on mange, on doit payer 4. Si c'est un agneau, on va payer 4 fois la valeur. Et comme c'est lui qui en bénéficie, c'est une façon de lui donner de la tzedaka. Là, il n'aura pas. On ne sait pas qu'on lui a donné. Il a été volé. Et c'est son droit. Ça lui revient de droit. On met là à la haie qu'on n'a pas le droit de le faire. Non, on pourrait très bien imaginer, le type, il va au Beddin, Et il fait une déclaration, écoutez, je ne suis pas un voleur, mais je veux aider telle et telle personne. Bon, sous le sceau du secret, je vous dis que je vais le faire. D'accord, et bon. On pourrait imaginer une solution de ce genre-là, pour aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, qui a besoin d'être aidé, il a des enfants qui crèvent de faim. D'accord, je veux lui forcer la main. Mais je ne peux pas, il ne laisse pas. Alors, je vais trouver un truc. Mais ça ne marche pas, on n'a pas le droit. C'est dommage, parce que c'était une bonne solution. À son insu, donc. Non, on peut l'aider à son insu, mais pas en faisant un vol. C'est pas évident, c'est pas si facile que ça d'entrer chez quelqu'un et de semer des billets. Donc c'est sûr que... bon, ben, c'est des billets qui sont chez... S'il les a trouvés, c'est chez lui, c'est à lui. Ouais, c'est difficile de venir saupoudrer les billets, je veux dire, chez quelqu'un.
En tout cas, c'est pas, comme ça a l'air de souhaiter, Midak,
tu veux dire?
Ouais, ben, c'est pas le voleur, par exemple, il doit rembourser peut-être le double de ce qu'il a volé. Je veux dire, si c'est un milliardaire, en aucun cas, il va souffrir comme celui qui s'est fait voler son unique bien, son mouton.
Tu as raison. Mais ça, on ne peut pas le faire. C'est...
Non, mais c'est juste pour dire quand même que la vengeance, là, par rapport à la justice, elle est...
Mais qu'est-ce qu'il pourrait lui faire? Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire? Lui vendre, lui le faire souffrir autant, c'est de lui voler un milliard aussi?
Ah, mais ça, que...
Ouais. Lui, il lui a volé 100, mais c'était tout ce qu'il avait. Et l'autre, pour qu'il souffre de la même manière, il faut lui voler un milliard.
Quand
même.
Bah, il faut sur la mesure de. Oui. Par exemple, si je fais un faux témoignage, je vais subir ce que je m'avais.
Ça, c'est un énorme cridouche, cette histoire-là. Oui,
ouais, mais c'est un peu le principe d'équivalence. Quoi.
Non, mais là, c'est la même chose. Mais les faux témoins, s'ils sont archi-riches, et que ça va leur coûter 200 euros, et le type, il voulait témoigner contre lui, et qui devait 200 euros, et c'était les 200 euros qu'il avait. Et eux, ils ne paieront pas plus, parce qu'ils sont riches.
Ah oui, c'est vrai.
Donc ça ne marchera pas. Il y a juste un petit point encore. C'est, quand Amitzrak dit « Shne dvarim bimino shel HaKadosh Baruch Hu » il y a deux choses qui sont dans la droite d'Hachem. C'est Tzedaka et Torah. Et puis ensuite, « Shne dvarim biyado » deux choses dans sa main. Alors, la main, après, ça, ici, ça voulait dire quasiment la main gauche. Bon, puisque l'autre, c'est la main, ça s'appelle l'imino, la droite. On dit, le yad, tout court, c'est la gauche. Quand on veut dire la droite, on dit imino, la droite. La yémin, c'est le côté du chesed, ce côté du don, de la générosité. La gauche, c'est effectivement le côté du din, le côté de la rigueur, etc. Et donc on dit, dans la main gauche, il y a deux choses, il y a le nefesh et il y a le din. Donc, que le din soit dans la main gauche, c'est assez logique, c'est le din, c'est... Mais pourquoi le nefesh est-il dans la main gauche? Parce que ici, on veut dire, c'est une espèce de soumission, ils sont tous les deux, ça va par pair, tzedaka et Torah, et puis nefesh et din. C'est-à-dire le nefesh, c'est marqué effectivement, c'est dans Iyov, Asher biyado nefesh kol chay, et le din. Alors vous remarquerez que Regardez quel pasouk qu'on apporte pour le din. Vadin dirtiv vetoches bamishpat yadi. Pour montrer que le din est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, on apporte un pasouk qui dit que c'est le mishpat qui est saisi. Pardon?
C'est juste le pasouk qui est avant le celui qu'on a cité.
Oui, bien sûr, mais donc ce qui est important ici, c'est que le mishpat, le din est dit sous forme de mishpat ici. Presque mishpat, il a dit. Donc on est déjà. Après qu'Hachem ait fait le travail de transformer le din en mishpat. Et donc il faut entendre ici qu'il y a eu un travail dans le. Hachem explique, je ne peux pas donner libre cours au din. Sinon je détruis le monde, je suis obligé d'en passer par le mishpat. Donc une fois Rabbi Tzra qui parle. Semble-t-il, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a déjà fait le travail, en quelque sorte, de ne pas appliquer le din, mais de le remplacer par le mishpat. Et il y a encore une autre chose qui est un peu remarquable, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit « Un nefesh ve'adin netunim biyadi » Le nefesh et le din sont dans ma main. Et on a vu que le din, c'est le mishpat, n'est-ce pas? Mais le verset dit Vetochez Bemishpat Yadi. Vetochez Bemishpat Yadi. Ma main, ils avaient traduit ma main s'armera du châtiment. Là, on a l'impression, c'est la main qui saisit le mishpat. C'est pas que le mishpat est dans la main. Il est, enfin, une fois qu'elle l'a saisi, il est dans sa main. Mais l'opération, c'est pas que le nefesh à la limite. C'est marqué Asher beyado nefesh kofrei. Dans la main d'Hachem, il y a le nefesh de chacun. Tandis qu'ici, c'est marqué tu saisis la main saisit le mishpat. Et du coup, puisque maintenant c'est devenu du mishpat, alors c'est possible de dire shoftim shotrim titen lecha, puisque j'ai déjà transformé ça en mishpat, et maintenant si vous prenez ce mishpat, c'est comme s'il avait fait un travail préalable, comme par exemple le travail qui permet un brit, qui permet une alliance. Il faut d'abord qu'Hachem nous élève pour que nous soyons des partenaires acceptables pour l'alliance, parce que sinon on n'est pas un partenaire acceptable pour l'alliance. On est beaucoup trop nul, quoi, si on veut, pour être des partenaires d'une alliance avec Hachem. Donc il faut d'abord qu'il nous élève, qu'il nous mette en partenaire, puis ensuite une alliance. Ici aussi, il fallait d'abord descendre le din au niveau mishpat, pour qu'ensuite il puisse dire, si vous me dégagez du mishpat, donc du din sous forme de mishpat, ce que vous pouvez faire, parce que shoftim et shotrim, bon, parce que la midatanine, nous, on ne peut pas appliquer la midatanine, on gère pas la midatanine. Mais puisqu'Hachem dit le din, il est sous forme de mishpat, déjà, alors je peux vous le donner. Je peux vous le donner à gérer, en fait. Donc il y a un travail, d'accord, de gestion du din, dès lors qu'il a été transformé en mishpat. Voilà, on va en rester là.
Je vais être en parole.